Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une véritable casse-cou, grande amatrice de sensations fortes et surnommée à juste titre la fiancée du danger. Notre héroïne n'a pas eu ni une, ni deux vies, mais une multitude. Comme si une n'avait pas été assez longue pour profiter des expériences de la vie. Elle est l'une des premières femmes en France à avoir reçu son permis de conduire. Mais si ce n'était que ça. Athlète émérite, infirmière, inventrice ou encore journaliste, pour cette femme, rien n'est impossible. Elle n'a jamais eu peur de taper dans la fourmilière et de défier les hommes sur ce qui était considéré à l'époque comme leur champ d'expertise. Et tout ce destin incroyable, elle l'a mené jusqu'au bout, puisqu'elle est l'une des sportives les plus décorées de l'histoire de France. Vous voulez une autre anecdote ? Quand on a refusé de l'accueillir au Tour de France de 1908, notre badass est la seule femme à avoir suivi le peloton masculin à vélo, et à boucler le circuit. Clairement, elle a eu raison, car le premier tour féminin n'est arrivé qu'en 1955. Sans plus attendre, partons à la rencontre d'une extraordinaire aventurière et combattante qui va éblouir vos yeux et vos oreilles. J'ai nommé Marie Marvin. Comme la postérité peut parfois être cruelle, le nom de Marie Marvin ne vous dit sûrement pas grand-chose. Alors pour rendre un peu de justice à cette intrépide, nous allons prendre la route pour Aurillac, dans le Cantal, au milieu des années 1870. Mais avant cela, petit détour. Félix Constant et Elisabeth habitent depuis quelques années à Metz, lorsqu'ils doivent fuir la Lorraine. La ville est alors tombée sous le contrôle de la Prusse. Lui est fonctionnaire de la poste, et c'est une mutation qui l'amène dans le sud de la France, jusqu'au beau paysage auvergnat. Commence alors une nouvelle vie. Le 20 février 1875, la petite Marie-Félicie Elisabeth voit le jour avec une énergie débordante et une vigueur assez impressionnante.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain.
Son père est un grand fan de sport, à l'époque où les loisirs prennent de plus en plus de place dans le temps libre de la bourgeoisie et de la classe moyenne. C'est aussi un homme très avant-gardiste. Chez lui, pas de différence entre les filles et les garçons. L'éducation, c'est la même pour tout le monde. Il aime passer du temps avec ses enfants et leur transmettre son amour du sport. Marie, qui a beaucoup de curiosité, partage très tôt le goût du dépassement de soi avec Félix et tous deux deviennent rapidement un duo inséparable. En parlant de sa jeunesse, Marie évoque même que son père lui aurait appris à marcher et à nager en même temps. Peut-être un signe avant-coureur de l'exploit qu'on prête à notre casse-cou alors qu'elle n'a que 4 ans. On raconte qu'elle aurait été capable de nager plus de 4 km dans les rivières autour d'Aurillac. Vrai événement historique ou histoire fabuleuse, à vous d'en décider. Mais ce qui est sûr, c'est que Marie adore le sport et qu'elle est douée pour ça. De l'escalade au billard, son père l'encourage à faire l'expérience de toutes les disciplines sportives qu'elle peut. Pour le plus grand plaisir de notre petite Marie, qui est une véritable touche-à-tout. Et comme l'excellente élève qu'elle est, elle devient aussi bonne en tout. À l'âge de 5 ans, Marie retourne avec sa famille en Lorraine. C'est un nouveau chapitre de sa vie qui commence. Elisabeth, sa mère, a une santé très fragile. Alors elle souhaite revenir auprès de ses parents à Metz. À cette époque, la Lorraine, ce n'est pas la France. Chez les Marvin, on parle français, mais les enfants sont aussi initiés à l'allemand à l'école, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Toujours aussi curieuse de tout, Marie découvre les arts du cirque en 1889. Elle réussit d'ailleurs à convaincre son père de la laisser rendre visite régulièrement au chapiteau d'un certain monsieur Rancy. Marie passe des journées entières à apprendre la voltige et le trapèze. Marie a 14 ans lorsqu'elle est confrontée à la mort prématurée de sa mère. Et quelques temps plus tard, celle de son frère Eugène. Désormais tous les deux dans une nouvelle maison à Nancy, Marie et son père ne se quittent plus. Alors elle passe beaucoup de son temps libre à découvrir la ville à bicyclette. Enfin, bicyclette, disons plutôt Drésienne, la grand-mère du vélo. Nous sommes en 1890 et le vélo s'est considéré comme une activité réservée aux hommes. Les rares femmes qui font du vélo doivent demander un accord préfectoral pour porter un pantalon. Ça paraît loin dit comme ça, mais aucune femme n'a envie de braver les ordres pour une question de confort. C'était sans connaître Marie, qui elle n'a que faire de ces interdictions. Elle chevauche sa drésienne avec son pantalon en toute liberté et avec une grande fierté. Si les hommes ont le droit, pourquoi pas elle ? 15 ans, c'est aussi l'âge de ses premiers entraînements sportifs avec son père. Par exemple, ils explorent ensemble les rivières Lorraine en canoë. En 1899, Marie est l'une des premières femmes à passer son certificat d'aptitude à conduire des voitures, autrement dit plus tard, le permis de conduire. Au même moment, elle s'inscrit à l'université. Et en 1900, ça fait 20 ans que les femmes ont le droit d'aller à l'université en France. Elles représentent alors 3% des étudiants. Aujourd'hui, en comparaison, elles sont majoritaires. Marie sort diplômée d'une licence de lettres. Et comme elle ne dort que quelques petites heures, elle s'est aussi intéressée à des domaines plus lointains des sciences humaines, notamment la médecine. Marie aurait eu le temps d'acquérir les bases du métier d'infirmière. Surtout, l'université n'est en aucun cas un prétexte pour arrêter le sport. Elle ne cesse d'enchaîner les records dans plusieurs disciplines. On lui attribue même 34 médailles, ce qui fait d'elle la sportive la plus titrée de France. Elle reçoit d'ailleurs la grande médaille d'or de l'Académie des sports en 1910. C'est la première et la dernière fois que l'Académie distribue un prix toute discipline. C'est dire. Alors je ne vais pas vous raconter tous ces exploits un par un, mais plutôt vous raconter quelques anecdotes où notre héroïne a été grandement victorieuse. Nous sommes en juillet 1906, lorsque Marie s'élance dans les eaux fraîches de la Seine. Ce jour-là, elle traverse tout Paris à la nage, 12 km, en 4 heures, 11 minutes et 23 secondes. Un fier exploit pour notre héroïne, qui n'a cessé de s'entraîner d'arrache-pied depuis qu'elle est petite. Elle termine 15e au classement général et 3e sur les femmes qui ont participé à la traversée. Mais Marie, c'est aussi une férue de sport d'hiver, et il se trouve qu'elle est également très très douée. Pour n'en citer que quelques-uns, elle adore le ski, le patin à glace ou encore le bobsleigh. Elle enchaîne médaille sur médaille et suscite même la curiosité de la presse. Elle est la première femme à escalader l'aiguille du Grépon, près de Chamonix, qui culmine à 3500 mètres. Cela lui vaut d'être mentionnée comme l'une des pionnières de l'alpinisme français dans le magazine Femina de septembre 1911. Même si, avant elle, deux femmes se sont déjà illustrées en grimpant au sommet du Mont Blanc. Continuons alors ce palmarès. En 1908, alors qu'on ne doutait pas de ses capacités à exceller dans n'importe quel sport, comme je vous l'ai dit, Marie fait face à des remarques misogynes dans une discipline en plein essor, le vélo. Nous sommes en 1903 lorsque la fédération crée le Tour de France, une compétition dans laquelle les participants sont loin d'être des professionnels. Certains usent de la triche et les règles changent sans arrêt. L'idée est bonne, mais niveau organisation, c'est pas top encore. Seule une règle est stricte, aucune femme n'a le droit de concourir. De nouveau, on ne dit pas non à Marie. On ne veut pas d'elle sur le tour ? Très bien, elle prendra son vélo et suivra le peloton après le départ officiel. Nous sommes alors à Paris le 9 août 1908. Sur les 114 cyclistes qui ont pris le départ le 13 juillet, seuls 36 ont terminé le tour. Et devinez quoi ? Marie est la 37e. Sur la ligne d'arrivée, elle montre que sa condition physique surpasse largement celle de ses homologues masculins. Pourtant, la presse n'est pas là pour photographier son exploit. Marie est aussi une grande passionnée d'aviation. Elle n'est pas la première femme dans les airs, mais elle est considérée comme une pionnière. En 1901, elle réalise son premier vol en ballon libre, une montgolfière qui n'est pas attachée au sol par une longe. Mais c'est une autre anecdote qui va la rendre encore plus exceptionnelle. Le 26 octobre 1909, au parc de la Pépinière à Nancy, Marie embarque à bord de son ballon, qui porte le doux nom de l'étoile filante. Ce vol, elle le réalise avec le colonel Émile Garnier, chargé de l'assister. L'engin décolle et se laisse transporter par le vent en direction de la Belgique. En fine observatrice, Marie remarque qu'en s'approchant des côtes de la mer du Nord, les vents continentaux pourraient leur permettre de rejoindre l'Angleterre. Marie demande si Émile est prêt à saisir l'opportunité, et la réponse est oui. Alors, allons-y. Le vent commence à souffler de plus en plus fort, et il semblerait qu'une tempête se prépare. Marie et Émile sont alors à 2000 mètres d'altitude, dans un panier suspendu à un ballon. Des rafales secouent le ballon. Il s'engage alors dans une descente périlleuse. Marie lâche tout le lest, le panier effleure la mer à plusieurs reprises, mais heureusement, au loin, on aperçoit déjà l'Angleterre. L'équipage doit absolument tenir jusqu'à l'atterrissage. Nous y sommes presque. Maintenant ! Zut, le ballon est remonté et s'est pris dans les branches des arbres. En tout, il leur aura fallu 14 heures pour parcourir 720 km. Cette fois-ci, bien qu'il fasse nuit, la presse est là pour raconter les exploits d'Émile Garnier, le fabuleux aviateur, et son assistante, Marie Marvin. Marie sort du papier à lettres et se précipite pour partager sa colère et son incompréhension aux journalistes. Dans cette aventure, c'est bien elle l'héroïne. L'étoile filante, c'est son ballon, et Émile, son assistant. Un an plus tard, notre aviatrice obtient son brevet de pilote et dans la foulée, bim, elle établit un nouveau record féminin. 53 minutes dans les airs. Alors que l'aviation fait ses premiers pas et que de nombreux pilotes périssent dans des accidents, Marie, la fiancée du danger, se distingue par sa détermination. D'ailleurs, son courage ne passe pas inaperçu. Le journal La Vie au Grand Air lui consacre sa une et elle est portée en triomphe par 6 aviateurs, tous masculins, qui admirent son audace. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Marie, qui désire ardemment contribuer à l'effort de guerre, tente sa chance auprès de l'armée pour devenir aviatrice. Mais avant ça, elle doit convaincre l'état-major. Elle évoque alors les escadrons d'aviatrices russes qui volent avec l'approbation du tsar Nicolas II. Pour le moment, la décision officielle de son recrutement est en attente. Alors on la laisse prendre part à une ou deux missions pour remplacer des pilotes blessés au combat. Puis la décision tombe et elle est sans appel. Les femmes ne sont pas les bienvenues au sein de l'armée. À cette époque, elles n'ont que deux rôles majeurs sur le front, prostituées ou infirmières, mais toujours est-il qu'elles sont au service des hommes. Marie s'engage alors en tant qu'infirmière, mais ça reste peu comparé à ce qu'elle envisageait. Ce qu'elle veut, elle, c'est se battre aux côtés des siens et se rendre utile à son pays. Alors elle a une idée. C'est autour de 1917 que notre héroïne audacieuse devient soldat. Elle rejoint un petit groupe de femmes qui se travestissent pour intégrer les rangs militaires. C'est ainsi que Marie entre dans le 42e bataillon de chasseurs à pied, un régiment de réserve qui a notamment combattu lors de la bataille de la Somme. On raconte que notre nouvelle recrue aurait passé environ une cinquantaine de jours sur le front. À la fin du conflit, Marie reçoit la Croix de guerre, une reconnaissance pour ses exploits remarquables. Elle a alors 43 ans. Son engagement prend une toute autre dimension. Elle va désormais au front, en tant que correspondante de guerre, pour relater les faits sur le terrain. Et avec cette nouvelle expérience, elle poursuit à côté son travail d'inventrice. Par exemple, lorsqu'elle est déployée en Afrique du Nord aux côtés de l'armée française, elle améliore un système d'aide au décollage pour les avions dans le désert. Lorsqu'elle retourne de temps en temps au pays, elle raconte sa vie pleine d'histoires lors de conférences qui réunissent beaucoup de monde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'engage de nouveau comme infirmière dans l'armée. On raconte qu'elle aurait créé un point de suture qui réduirait les risques d'infection sur le champ de bataille. À l'issue de la guerre, elle est décorée de la Légion d'honneur. En 1955, Marie est octogénaire. Mais ce n'est pas une excuse pour cesser toute activité. C'est à cette période que l'armée américaine l'invite à passer un nouveau baptême de l'air. Cette fois-ci, notre héroïne intrépide franchit le mur du son à bord d'un avion supersonique. 2 ans plus tard, les caméras de télévision viennent filmer son premier vol en hélicoptère. Et c'est elle qui conduit. Malheureusement, c'est seule dans un hospice de Nancy que Marie termine sa vie. Elle tombe progressivement dans l'anonymat, même si elle reste une star en Lorraine. En 2004, la Poste émet même un timbre en son honneur. Mais après vous avoir raconté tout ça, un mystère plane encore. La question de sa panthéonisation s'est posée. Marie Mervin est une figure fascinante de l'histoire, mais comme pour de nombreuses personnalités historiques, des interrogations et des controverses entourent certains aspects de sa vie. Par exemple, certains journalistes et auteurs se sont demandé dans quelle mesure ses exploits avaient été amplifiés ou manipulés pour des raisons de sensationnalisme. Toujours est-il que Marie était une femme dans un paysage médiatique qui valorisait beaucoup plus les exploits des hommes que des femmes. En somme, cette touche-à-tout et casse-cou pleine de fougue et de curiosité a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça! Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de l'extraordinaire Marie Mervin. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une lumière dans les ténèbres de l'Holocauste. Cette gynécologue courageuse et déterminée a défendu la dignité et la vie des femmes détenues dans les camps de concentration nazis. Son histoire poignante témoigne du pouvoir de la résilience humaine face à l'inhumanité et de la force de l'espoir même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Je vous laisse sur ça. En attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.